Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première, ici Denis Marion. Vous savez, à cette émission-ci, on parle souvent de Sorel-Tracy, on parle souvent des enjeux de Sorel-Tracy, de la situation, des dossiers. C'est pas trop anormal compte tenu du fait qu'il y a 70 % de la population de la MRC qui réside ici à Sorel-Tracy. C'est notre ville-centre. Peu importe où on habite dans la MRC, c'est notre ville-centre. C'est évidemment le vaisseau amiral du développement de la région. Pourtant, parfois, on a tendance à oublier que 90 % du territoire de la MRC est agricole. Je répète là, plus de 90 % du territoire de la MRC est agricole. Il y a pas loin de 400 entreprises agricoles dans la région. Avec le secteur industriel, particulièrement tout ce qui est lié à la métallurgie et à la fabrication métallique industrielle, l'agriculture, l'agroalimentaire en général, c'est l'autre pilier de notre économie régionale. Géographiquement, on est en périphérie, donc pas très loin de la capitale de l'agroalimentaire au Québec, Saint-Hyacinthe. L'agriculture, c'est un univers fascinant. Que nous, qui n'en sommes pas, moi je suis, même si j'ai vécu sur une ferme de tôt dans ma vie, je ne suis pas dans le monde de l'agriculture, mais c'est un univers qu'on connaît mal. Il y a tellement de choses qui ont changé en agriculture depuis les 20 ou 30 dernières années. Et alors qu'on est tout proche d'une nouvelle saison, avec l'arrivée du printemps et des activités agricoles qui vont être un petit peu plus intenses, j'ai souhaité qu'on en apprenne un peu plus ensemble sur les enjeux de l'agriculture en soi, mais aussi sur les enjeux des producteurs agricoles. Peut-être connaissez-vous Paul Caplette. C'est un agriculteur de Saint-Robert. Il est très connu, très respecté dans son milieu. On le lit régulièrement dans le bulletin des agriculteurs, dans les grands médias québécois. Vous ne soyez pas surpris de voir passer sa signature dans la presse de temps en temps. Il est souvent invité à partager ce qu'il a à dire dans les congrès, dans les colloques. Alors moi, je l'ai invité à passer l'heure de l'émission avec moi. Ensemble, on va faire le tour de quelques aspects de l'agriculture. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas parler de tout, mais je crois que vous allez apprécier ses connaissances, ses analyses, puis sa façon de bien expliquer les enjeux. Alors, après la pause publicitaire, je reçois pour vous et avec vous Paul Caplette. Restez avec nous. Agriculture aujourd'hui, univers de l'agriculture, univers aussi des agriculteurs, des producteurs agricoles avec Paul Caplette qui lui-même est agriculteur à Saint-Robert. Dans tous les secteurs de l'économie québécoise, c'est sûr qu'on vit des changements actuellement, entre autres des changements technologiques. Je pense entre autres à la visite que j'ai faite à la ferme Calixa Sainte-Victoire-de-Sorel avec la famille au coin qui a entièrement robotisé leur ferme laitière. Là, c'était assez impressionnant. Il y a donc l'évolution technologique. Il y a aussi une meilleure connaissance, évidemment, de l'ensemble des enjeux. On comprend mieux ce qui se passe dans la terre. Il y a des besoins particuliers aussi. Puis, évidemment, c'est absolument impossible de ne pas ajouter pour le monde de l'agriculture les préoccupations environnementales. L'adaptation au changement climatique, c'est une préoccupation de tout le monde actuellement et tout le monde regarde ça en se posant la question comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. C'est aussi une préoccupation citoyenne. Paul Caplette, je comprends que tu es engagé dans une démarche qui vise à faire en sorte que tu contribues finalement à cet enjeu-là en essayant de trouver des réponses sur la ferme. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à avoir cette vision-là des choses et qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Ça a commencé, nous autres, mettons, fin 90, début 2000 à peu près, là, où est-ce qu'on a eu à revalider notre cheminement comme agriculteur. Puis on regardait notre ferme, on avait une grandeur qui était efficace pour ce qu'on avait comme objectif, moi et mon frère, pour être capable d'en vivre et avoir des employés avec nous autres, etc.
On parle de combien d'hectares, d'ailleurs?
360 hectares sur la ferme. Puis, c'est ça, à un moment donné, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour être encore plus productif? Parce que les coûts montent tout le temps, dans le futur, avec les mêmes surfaces. Parce que nous autres, là, vraiment, là, on est vraiment des productions en production végétale. On est 100% nous autres collés sur le soleil. Puis, notre efficacité de fin d'année, elle revient juste de ça. J'ai pas d'animaux, on est vraiment spécialisés. Puis, les productions végétales nous occupent très bien, et trop même occupé. Des fois, on a des employés que nous autres, 365 jours de planification, etc. Fait qu'on a commencé à autour de...
Ouais, parce que juste dire, là, tout le monde, on comprend que l'agriculture, c'est pas juste d'avril à octobre. Là. L'agriculture, c'est 12 mois par année dans ta, dans ta vie.
Les anciens réflexes, là, qu'est-ce qu'il fait l'été? Il sème le printemps, puis il récolte l'automne. Là, ça c'est passé, ça fait un bout, mais ça a été une approche vraiment de dire comment est-ce qu'on va faire que notre système de production soit plus efficace. Puis c'est de là qu'est commencé l'idée de dire ben on va réduire les on avait déjà commencé le travail minimum. On a commencé à vraiment accélérer à partir de 2000 ce qu'on appelle la technique de semi-direct.
Qu'est-ce que ça veut dire d'abord le travail minimum?
Travail minimum, ça veut dire au lieu d'y aller, exemple, avec historiquement la charrue qui est vraiment agressive au niveau du sol, bon on va travailler avec des équipements qui vont garder des résidus en surface pour assurer une décomposition.
La richesse du sol.
La richesse du sol, garder ça en place, empêcher le vent. Vous avez déjà vu ça, là, tu sais, quand je pense à toi, là, à Saint-Aimé, tu as déjà vu des tempêtes de sable en t'emmenant à Sorel, là.
Oui.
Fait que de garder un certain pourcentage, fait qu'on était déjà dans ce mood-là, mais là, on est allé encore plus loin, vers le semi-direct. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, quand on parle des vers de terre, on parle qu'on travaille le terrain, tu sais, on a un petit potager, on prépare ça, on brasse ça, puis on sème, mais c'est des équipements plus légers, malgré qu'un petit rotoculteur est un petit peu trop passé, c'est peut-être un peu agressif, là, mais... Le ver de terre, ça y prend un an et demi à se reproduire. Ce qui veut dire que nos grands-pères, quand ils passaient à la charrue, à tout, ça prenait 6 ans avant que la charrue revienne, parce qu'ils faisaient une planche par année. Mais nous autres, maintenant, aujourd'hui, ben, c'est à l'époque, c'était un labo à tous les ans, ce qui veut dire que le ver de terre, tranquillement, pas vite, il n'y a plus de place. Mais le ver de terre, il a une énorme utilité au niveau du sol. C'est que, premièrement, c'est un micro-organisme qui... Premièrement, qui dégrade la matière organique. Deuxièmement, qui lui-même va
donc
faire
des galeries. Donc, la composte, qui contribue à la composter.
Oui, il va digérer ça. Puis tout ce qu'il digère, c'est 10 fois plus riche pour la plante que le sol lui-même. Lui, il redonne la valeur au sol. Dans le fond, l'aération qu'on fait mécaniquement, c'est le ver de terre qu'il fait. Puis un ver de terre, selon les scientifiques, il brasse son poids à chaque jour. Puis encore, selon les scientifiques, dans des fermes comme la nôtre, exemple, on a plus que 20 trous, même 30, 40 trous de vers de terre majeurs au mètre carré, ça représente pas loin de 1,5 tonne de vers de terre sur chaque hectare. Ce qui veut dire que chaque jour, sur la ferme, maintenant, ils se brassent entre 400 et 450 tonnes de matériel sans aucun carburant.
Attends un peu, là, faut qu'on on va reprendre ça comme il faut.
C'est
là.
Vraiment folle.
C'est parce que c'est vraiment extraordinaire. Ce que tu dis, c'est que au lieu de brasser la terre mécaniquement, comme mon père faisait quand on était sur la ferme, là, actuellement, vous avez constaté que les vers de terre, qui ne vous coûtent rien, là, on s'entend, là, ça ne coûte pas un sou.
Pas besoin de les loger, pas besoin de visio pour les emmener.
Exact. les vers de terre, actuellement, ils sont actifs. Ils aèrent, mais en plus, ils enrichissent la terre simplement en bouffant de la terre puis en évacuant quelque chose qui est encore plus riche que ce qu'ils ont ingurgité.
Puis pour la plante, la façon qu'elle transforme, en tout cas, je ne peux pas nommer tous les sucres, là, mais il se fait comme des sucres, puis la plante va avoir plus de facilité à aller chercher ses éléments dans le turricule du ver de terre, le petit caca qu'on appelle vraiment le vrai bambou, c'est un turricule. Fait que ce qui veut dire que de favoriser leur présence, leur travail dans le sol. Mais là, on va favoriser des cultures plus de rotation. C'est ce qui nous a emmené vers les rotations. Fait qu'en même temps, au départ, en 2000, c'était vraiment une question d'économie. L'agro-environnement, on a commencé par les bouts qu'on se disait, ça va être le bout le plus
payant. Parce que ça va être rentable.
Bien, c'était besoin d'un moins gros tracteur. Au début, on disait, on va en avoir d'un moins gros parce qu'on ne travaille pas le terrain. 15 ans après, tu t'aperçois que le tracteur, il travaille 30 % du temps qu'il travaillait avec. Fait que le tracteur qui coûtait 100 000, mais tu es capable de le garder encore 20 ans. Tandis que le même tracteur aujourd'hui coûte 300 000. Fait que moi, dans ma vie de 42 ans d'agriculteur, je serais supposé d'avoir passé 3 fois ce tracteur-là.
Je l'ai toujours le même.
J'ai le même. Fait que ce qui veut dire que j'ai changé. Oui, c'est moins glamour, là. J'ai un tracteur qui est efficace, mais il n'est pas à la nouvelle norme.
Comme de raison, il est plus vieux. Comme de raison.
Mais je n'ai pas eu à investir. Parce que ce même tracteur-là aujourd'hui, il coûte 325 000 $ pour les mêmes. Puis là, on ne parle pas des équipements qui vont derrière. Puis tout le volet qui est venu avec le temps. Ça a commencé par, rotation meilleure, plus de cultures, des cultures leviers, des couverts végétaux. On appelle ça le génie végétal maintenant. Avant, on parlait d'une rotation de culture. Là, maintenant, on parle d'un
système. Ça veut dire que d'année en année, on changeait la culture qu'on semait sur un territoire.
On travaille vraiment comme un système. Puis je fais souvent le parallèle avec notre équipe de hockey. On a un système de jeu, puis une équipe de hockey comme le Canadien, ils ont 4 trios. Ils ont un trio de vedettes, un deuxième trio, puis ça prend tout le temps un 4e trio, un trio d'énergie qu'ils appellent. Dans notre système de culture, on est rendu qu'on rentre des cultures, entre guillemets, d'énergie. Un petit peu moins rentable des fois sur l'année 1, mais qui vont nous donner des leviers pour envoyer des éléments. Tu sais, on va rentrer des légumineuses qui pompent de l'azote de l'air, puis qu'elle, dans le plan, quand la personne a vu un champ de maïs, un champ de soya, un champ de fèves, nous autres, on est 3 ans en avant dans notre système. Là. On sait ce qui s'en vient en 2026. Là. Fait qu'on sait que...
Vous l'avez décidé, là.
Oui, c'est planifié que cette culture-là, après, il va avoir telle légumineuse, parce qu'après, c'est une légumineuse, une plante qui aime l'azote. Puis l'azote que je suis capable de faire produire par mes plantes, comme en génie végétal, comme agriculteur, elle dégage 5-6 fois moins de gaz à effet de serre que la même unité d'azote que j'achète. Parce qu'elle est fabriquée naturellement par des légumineuses qui pompent dans l'air, pas de pétrole, pas de transport, rien. Fait que ce qui nous a emmené avec les étapes de progression, au début, les premières rotations, deuxième rotation, à un moment donné, tu vois de plus en plus d'avantages, ce qui nous fait aujourd'hui confirmer que ces pratiques-là n'ont pas été des pratiques, exemple, « Ah, je m'occupe de l'agro-environnement, puis ça me coûte cher. » C'était une vision à long terme qui nous emmène aujourd'hui vers des résultats, puis ce qui a fait que, en 2006, il y avait un Enviroclub, le commissaire agricole pour l'industrie, le commissaire agricole du temps, il dit « Hey, ben du temps, c'est encore l'année qui est là aujourd'hui. » On devrait faire un portrait de l'agriculture. Ils ont fait un portrait de notre ferme avec une autre ferme dans la région. On s'est aperçu, on n'a pas pu finir parce que, comme souvent, les budgets ont été finis, mais on a eu quand même des contacts avec ces personnes-là. Puis ils nous ont donné des grandes lignes, un peu comme un grand tableau de bord. Puis on est parti avec ça en 2006. T'as pas trop en mode des gaz à effet de serre en 2006. Puis on a roulé de même. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, on comptait que ça faisait un peu. Puis c'est là que tantôt, quand je te disais qu'en 2018, il y a un spécialiste qui est venu prendre notre ferme, il a regardé ce qu'on faisait. Puis c'est là qu'il nous a dit « Hey, t'es bon en agro-environnement, t'as augmenté de 50% ta capacité de nourrir, on est passé de 10 000 à 15 000, on était capable de réduire nos gaz à effet de serre de 32% de 2006 à 2018, ce que le gouvernement espère pour 2030. Nous autres, on l'a fait, on n'a pas eu 3 petits sous de ça.
Ouais.
On l'a réussi, on est fiers de ça. Puis là, le pire de tout, c'est qu'on continue, puis là, on va se faire réévaluer cet hiver. On commence à rêver, puis en plus, on capte du carbone. » Ça, ce bout-là, je suis en train de l'oublier. Tout le côté travail réduit, résidus au sol, tu minéralises moins, ce qui veut dire que tu décomposes moins ta matière organique, ce qui veut dire que tu accumules du carbone. Chaque pourcentage de matière organique de plus dans ton sol, ça va te rendre ton sol plus résilient, ça va te donner une meilleure réserve d'eau pour tes plantes avec les changements climatiques, parce que ça, c'est tout dans l'optique aujourd'hui, une meilleure réserve d'eau pour les plantes. Puis en plus, on va capter du carbone. Fait que le carbone qu'on a augmenté, mon frère et ma mère, de 2006 à 2018, ça l'enlève les émissions de 2000 voitures qui font 20 000 kilos par année. Ce qu'on a réussi, juste en captage, la Montérégie au complet, là, on montera de 1% toute la gang ensemble. Je veux pas dire de menterie, là, mais c'est énorme la pression qu'on enlèverait sur toute l'industrie. La même chose en France. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de matière organique ou de carbone. Mais au niveau production, ça te donne la production, puis en même temps, tu travailles des deux bords. T'en émets moins, puis en plus, t'en captes. Ce qui veut dire que comme agriculteur, on fait notre part par rapport au changement climatique.
Et non seulement ça, je comprends d'abord que ça a un impact sur votre rentabilité, donc sur la capacité de produire plus et mieux,
oui.
D'une part. Mais en plus, vous êtes en mesure de compenser, c'est pas le mot que j'utiliserais, là, mais d'être complémentaire, par exemple, aux besoins des industries de leur bord ou oui. Des transports, etc. Donc, vous contribuez positivement. Donc, c'est pas simplement une diminution de votre empreinte carbone, c'est aussi une contribution à l'ensemble.
Oui.
Puis là, la question qui me vient, c'est si toi, tu es capable, chez vous, de calculer cet impact-là puis de nous impressionner par ça, qu'est-ce qu'il y en est des autres producteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, est-ce que les producteurs agricoles de la région, de la Montérégie en particulier, on s'entend, là, c'est le Jardin du Québec, là, la Montérégie, là, hein? c'est la Montérégie qui nourrit le Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé? Est-ce qu'on est là maintenant dans l'agriculture?
On est dans l'apprentissage de ça avec plusieurs fermes, même dans la région, qui ont participé, ce qu'on appelle le groupe Agri-Climat. Ça, c'est financé par le fédéral pour aider les agriculteurs. Puis on a appelé ça un laboratoire vivant. Les chercheurs d'Agriculture Canada, nous autres, on était chanceux dans Pot-au-Beurre. On était le premier laboratoire vivant du fédéral au Québec parce qu'on avait un bassin versant qui était vraiment innovateur. Ils ont travaillé 3 ans. Puis là, avec des résultats, ils ont mesuré, exemple, notre capacité de nourrir, l'efficacité de nos bandes riveraines par rapport aux pollinisateurs, les présences d'oiseaux, etc. C'est vraiment global. T'sais, on est parti avec le côté financier de réduire des coûts, baisser des machines, émettre moins de gaz à effet de serre. Puis présentement, puis on s'en va aussi du côté, tout le côté biodiversité par rapport aux oiseaux, par rapport aux pollinisateurs. des observations qui ont été monitorées par ces gens-là. Puis là, je participe avec d'autres fermes du coin, puis d'autres fermes aussi de la Montérégie. Il y a un grand panneau, là, ils sont 50 fermes laitières qui veulent essayer d'être carboneuses d'ici 2030, etc. Fait qu'eux autres, ils vont développer leurs choses. Puis au niveau grande culture, etc., on a des suivis avec des chercheurs qui vont venir sur la ferme, évaluer le carbone, où est-ce qu'il se situe sur ma ferme, puis ils vont nous suivre encore pendant 4 ans ou 5 ans, je ne me trompe pas, jusqu'en 2028, pour voir comment est-ce que ça va avoir évolué puis où est-ce qu'on s'en va.
C'est deux ou trois fois, Paul, que tu parles du bassin versant de la rivière du Poteau-Beurre. De l'autre côté de la pause, j'ai vraiment envie qu'on aille un petit peu plus loin dans ce dossier-là, parce que je pense que tu l'as très bien dit, c'est un projet pilote et vous êtes vraiment à l'avant-garde là, dans ce projet-là. Il y a plusieurs producteurs de la région qui sont impliqués là-dedans. On parle de ça après la pause. Alors, on poursuit cette conversation absolument passionnante avec Paul Caplette. Je suis très content, Paul, qu'on puisse aborder toutes ces questions-là, honnêtement, dont on parle pas souvent. En tout cas, moi, ça se rend pas jusqu'à moi, je dirais, là, tout ce dont tu parles. Fait que je suis très content qu'on puisse parler de ça en onde aujourd'hui. Je le disais avant la pause, on évoque souvent... Les projets qui se sont tenus, qui se sont faits autour du bassin versant de la rivière du Poteau-Beurre. On parle souvent, quand on parle de notre MRC, des deux rivières, on parle de la rivière Richelieu puis de la rivière Yamaska, mais il y a un extraordinaire bassin qui verse vers la rivière du Poteau-Beurre, qui s'achemine vers la baie de la Vallière puis vers le fleuve Saint-Laurent. Il y a beaucoup, beaucoup de terres agricoles autour dans ce bassin versant-là. Ce bassin versant, ça ne veut pas dire que ce sont des terres qui touchent à la rivière du Poteau-Beurre. Ça veut dire que les eaux d'écoulement se rendent ultimement à la rivière du Poteau-Beurre.
Ça vers ça, ouais.
Qu'est-ce que vous visiez, parce qu'il y a plusieurs agriculteurs qui sont impliqués dans ce projet-là, qui sont engagés là-dedans, et quels sont les résultats auxquels vous arrivez à ce moment-ci?
Bien, c'est 10 000 hectares en surface, à peu près 135 agriculteurs, à peu près que ça représente au niveau implication.
Là, on parle Saint-Robert, Sainte-Victoire, Sainte-Anne, Yamaska probablement, quelque chose comme ça.
Saint-Anne, on y touche pas, on se trouve pas y toucher à Saint-Anne. On se trouve, mettons, exemple, Saint-Robert, Sainte-Victoire, Saint-Aimé. En pointe, là, en allant jusqu'à quasiment... Ouais, c'est ça, jusqu'à la fin de Sainte-Victoire. T'sais, c'est les affluents qui finissent tous par partir en fil d'araignée puis se rejoindre vers le central de cette... C'est un peu une façon de travailler qui nous tient comme agriculteurs plus proactifs ou peut-être plus conscients, un peu comme des gens qui voudraient réparer leur ruelle en arrière de chez eux. C'est toujours plus motivant d'arranger ta ruelle en arrière de chez vous que de faire la ruelle à 15 km plus loin. Fait que on se sent plus impliqué, etc. Là.
Puis je mets l'enjeu directement sur la table. On a beaucoup reproché aux producteurs agricoles de polluer les rivières. Ça faisait partie du discours ambiant. Là. Ouais. On parlait de l'industrie, bien sûr, puis on parlait des producteurs agricoles. Et là, cette expérience-là visait justement à voir, si je ne me trompe pas, là, à voir comment vous pouviez diminuer l'impact que vous pouviez avoir sur la qualité de la rivière du Poteau-Beurre. Des différentes branches de la rivière du Poteau-Beurre, parce qu'il n'y a pas juste une branche, là, qui se rendait vers le fleuve.
Oui, c'est sûr que, comme agriculteur, on a à peu près 65% des effets secondaires de nos pratiques qu'on peut régler. Le comité de la Poteau-Beurre qu'on a formé à l'époque, c'était vraiment un comité d'action. On s'est dit, on n'est pas parfait, l'agriculture n'est jamais parfaite, mais on va s'attaquer aux 65% qu'on peut contrôler. Ce qui veut dire des bandes riveraines efficaces. Des sols qui sont couverts pour le côté aussi de ne pas envoyer souvent les polluants.
Qu'est-ce que ça veut dire des terres couvertes?
Couvertes, ça peut être par des résidus de culture qui sont restés en surface, comme quand on parle de la technique du semi-direct, ce qui veut dire que quelqu'un qui va passer en campagne va peut-être penser que la terre est à vendre ou est abandonnée, mais c'est juste que l'agriculteur est en technique de semi-direct. Il a laissé les résidus au champ pour obstruer l'eau quand il y a des grosses pluies.
Pour pas que ça aille trop vite et que ça fasse de l'érosion.
Ouais. Exemple, là, la grosse pluie qu'on a eue juste avant Noël, là, un flush qu'on n'a jamais vu, 100 mm en à peu près 24 heures. Mais imagine-toi du sol à nu, ce qui se passe.
C'est qu'il reste rien, là,
l'eau
cherche une dessus,
place,
là.
L'eau part avec la plus belle terre et elle l'emmène dans le cours d'eau. C'est les éléments qu'on ne veut pas voir dans l'eau, comme les pesticides ou les fertilisants, souvent sont transportés dans l'eau, surtout par la perte de sol, par le
puis là, la perte de sol, c'est pas bon pour vous autres parce que vous perdez de la qualité, puis c'est pas bon pour les rivières parce que, comme tu dis, dans le sol, il peut y avoir toutes sortes de trucs qui vont avoir un impact plus ou moins positif dans l'eau.
C'est ça, il y a la fertilité de base même du sol. Dès qu'un
tout le monde a intérêt à ce que tout le monde a intérêt à s'assurer, parce que les producteurs les premiers, parce que ça, il y a la qualité du sol qui est protégée.
C'est dans cet angle-là qu'on l'avait pris. On se disait, regarde, là, on va se prendre en main, puis on va prendre des actions pour arriver à quelque chose qui est positif, puis ça va être nous autres qui va l'avoir fait. Les campagnes, en fin de compte, quand on l'a dit tantôt, 90% du territoire, c'est en agriculture. Mais le territoire agricole, oui, il y a quelques villages au travail, mais c'est l'agriculture.
Bien sûr.
Fait que c'est un défi de production, puis un défi de savoir, de travailler autrement. Fait que l'idée des bandes riveraines, après ça, tout le côté couverture des sols. Quand on parle de plantes de couverture aussi, qu'on implante à l'automne, quand tu te promènes l'automne, tu vois des champs verts à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. C'est aussi des plants qui vont maîtriser la sol. Puis en même temps, vont pomper les restants d'éléments fertilisants qui traînent de la culture précédente. Fait qu'il y a toute une stratégie, en plus de ce que je te disais tantôt, par rapport à l'année d'après, ce qu'on veut pomper. Fait qu'on sert de la puissance du soleil, on garde des plantes. Puis avec les changements climatiques aujourd'hui, tout ce qui est couvert, même les cultures en été, quand on parle de semi-direct, etc., les plantes d'intercalaire qu'on va rentrer, bien les plantes, c'est la crème solaire des humains. Avec la température qui va monter de plus en plus qu'on va devoir cultiver le sol avec un peu de paillis ou une couverture pour baisser la température, justement pour pas que nos vers de terre et nos limaces cuisent au soleil.
Et probablement que toute l'eau s'évapore. Vous devez vouloir conserver l'eau dans le sol.
On en perd encore plus. Fait quand on a un couvert, on garde une certaine humidité. T'sais, on prend un bout de bois qui traîne. On veut pas avoir des bouts de bois dans le champ, mais tu prends du paillis dans tes fleurs, tes tasses avec tes mains, en dessous, la terre est fraîche, là. Fait qu'au niveau du champ, c'est une façon de perdre, d'éliminer l'évaporation par la grosse chaleur, puis en même temps, les plantes l'ont, puis tes micro-organismes sont capables de se créer une micro-société dans ce couvert-là, le manger, le digérer. Puis c'est pour ça que c'est important de remettre des plantes tout le temps dans le système. Là.
Écoute, je suis absolument passionné. Là. Moi, je ne suis pas capable de ne pas m'intéresser à tout ce que tu dis, évidemment.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, puis ça fait 42 ans qu'on le fait autant avec passion. C'est que tu n'as jamais l'impression de recommencer à la même place. C'est vraiment... Depuis que je suis sorti de l'école, là, j'ai toujours dit que je suis passé à l'ITA dans le temps, j'ai étudié, mais j'ai jamais arrêté d'apprendre à apprendre depuis qu'on est parti de là. Tu sais, ça arrête pas, c'est ça qui est le fun.
Bien, on est en 24, là, on est en 2024, puis devant nous, il y a 2030, 2040, 2050. Et là, il y a plein d'éléments dont on nous dit, et ça sera pas facile les 20 prochaines années, les 25 prochaines années. La question des changements climatiques va avoir un impact de plus en plus grand, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'agriculture? C'est-à-dire, comment tu vois ce qui va se développer? Il y a toutes sortes d'enjeux, là. Vous êtes maintenant à la tête d'entreprises qui sont quand même, qui valent beaucoup de sous. Il y a des enjeux de relève. Qui va prendre la relève? Comment tu vois l'évolution des choses, là? Qu'est-ce qu'il y a devant toi?
Il y a facilement deux gros dossiers. C'est certain que les changements climatiques, nous autres, on le voit vraiment de continuer notre système puis garder tout le temps notre esprit de flexibilité. Il ne faut pas se cantonner. Il faut être flexible. Il faut être capable d'agir sur le terrain. Des fois, on bougonne dans les affaires qu'on bougonne puis qu'on gronde. Notre histoire de règlement avec des dates, plus les changements climatiques vont changer. Celui qui va coller à shot, c'est l'agriculteur qui est sur le terrain, jour après jour, avec sa station météo. Moi, à tous les jours, quand
en
je sors dehors,
de la réalité, là,
j'ai quelque chose vrai, en tête à préparer, puis je suis tout le temps sur la météo, tout l'été, puis là, je check si tu t'en y aller, c'est pas le temps, si tu t'en sauver ça, etc. Ça, il faut garder cette flexibilité-là pour être capable de traverser ça, puis je pense qu'on va être capable de bien s'en sortir. L'autre gros dossier, on parle de 2030. Moi, 2030, j'espère que je vais me rendre là comme agriculteur. J'espère être capable de transférer notre ferme à... Nos enfants n'ont pas nécessairement été intéressés, mais là, on s'enligne sur nos petits-enfants, fait que ça m'emmène à 75 ans, tu sais, de me rendre là, puis d'avoir une ferme qui est à l'image de ce qui va être 2030. Je veux pas une ferme qui est sur son déclin pour transférer quelque chose avec des manches pétées à ma relève dans 10-15 ans.
C'est de plusieurs agriculteurs à qui j'ai parlé, c'est une grande, grande, grande préoccupation. L'avenir, les producteurs, vous êtes, tu l'as dit, là, vous êtes dans le quotidien, vous êtes dans le vrai quotidien, vous surveillez la météo, vous surveillez ce qui se passe, mais vous êtes en même temps en train de réfléchir à ce qui va se passer.
Extrêmement, tu sais, c'est du day-to-day, mais c'est tellement passionnant de se lever puis d'avoir quelque chose que tu peux faire de mieux avec ton métier, ta profession. Mais l'idée de la transférer, ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on parle, oui, c'est vrai que les terres valent cher, mais en général, les agriculteurs, on n'a pas eu des terres en pensant d'être millionnaires. On a voulu avoir des terres pour faire de l'agriculture, pour triper.
Tout à fait.
On a eu, c'est une grande responsabilité, mais en même temps, c'est un grand privilège. Moi, je considère, même si je travaille 110 heures par semaine en été, je me lève avant le cadran sans problème, puis je suis passionné par ce que je fais, puis plusieurs agriculteurs, c'est comme ça. Le problème, c'est que là, maintenant, on a des valeurs spéculatives sur nos terres. On est taxé, même s'il y a des remboursements de taxes. Nous, ça a monté de 4 000 à 15 000 piastres en 4 ans là, sur la même ferme. C'est-à-dire, c'est 11 000 piastres de plus, etc. On est taxé sur une valeur spéculative. Puis ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est qu'avec les règles fiscales, etc., avant, ça se faisait, tu peux avoir ta terre puis dire, « Tiens, mon jeune, Denis, la terre, c'est toi qui as mis ça, tu vas l'avoir. » La terre est payée, est rentable. Là, présentement, on a des terres qui sont rentables, mais fiscalement, je ne suis pas capable de la donner à mes enfants. Je suis obligé de la vendre à un certain prix minimum par rapport à tout ce qui est fiscal. Puis là, je ne veux pas mêler le monde avec ça, mais c'est vraiment tordu au niveau comptable. Fait que là, ça prend des comptables, des fiscalistes, des notaires, un paquet de monde. Pour que mes enfants, je vais avoir fait toutes sortes de magouilles, des assurances-vie, un paquet de patentes, mais ils vont se ramasser avec une bébelle à rabais qui va lui coûter 10-12 millions. Puis ils vont être obligés d'à peu près 6 à 7 fois plus efficaces que ce que moi ou mon frère, on est.
À cause de la valeur d'expérience
toujours dans le plafond. Fait que nous autres, on se dit, pour le transfert avec nos enfants familiales, pour des femmes familiales qui veulent nourrir puis en vivre, on devrait avoir des choses qui favorisent l'agriculteur qui est en place pour être capable de transférer. Ouais. Quand le geste de transférer à ton neveu, à ta fille, à ton gars, à tes deux gars, à ton neveu, tout ça, là, que ça passe drette. Parce que sans ça, tranquillement, pas vite, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train d'asphyxier notre relève de toutes les horizons.
Et là, ça va nous coûter une beurrée comme société, là, si on asphyxie la...
Ou on va avoir une agriculture qu'on ne souhaite peut-être pas. Une agriculture qui est gérée par des fonds financiers qui voient l'opportunité de placer de l'argent à sécuriser, puis qui vont trouver des gens qui tripent sur la ferme. Mais cet agriculteur-là ou cette agricultrice-là, là,
il travaillera pas pour lui.
Elle n'aura jamais le privilège de se dire, moi, le matin, quand je me lève avec mon chum ou avec ma blonde, je suis chez nous, c'est moi qui colle la shot, je m'en vais comme ça, puis je trippe, puis je check ma météo, comme nous autres on fait présentement. Fait qu'il nous reste peut-être, tu sais, c'est poche à dire, là, si on fait rien, une génération et demie, moi, je serai plus là, mais la ferme va être encore là, mais la relève, il va falloir faire quelque chose pour ça, parce que sinon, ça va être extrêmement difficile pour eux autres, même s'ils vont vouloir, quel jeune va sortir de l'école, puis va dire, « Papa, je la pointe ta terre à 15 millions, là, puis je me lance faire du blading puis du soya. » C'est une charge économique qui n'a pas d'allure. Là.
Je ne sais pas, vous êtes peut-être comme moi, là, vous l'écouteriez pendant une autre heure. Là, Paul Caplette, cet agriculteur du Rang-Bellevue à Saint-Robert, merci d'avoir partagé tout ça. Le dernier constat est perturbant, là, c'est-à-dire que autant on a vu des choses passionnantes de ce que vous avez réussi et ce que vous continuez à réussir, puis en même temps, il y a des horizons qui sont un peu sombres dans une certaine mesure. Puis dans le fond, c'est peut-être un appel que tu nous fais à nous tous de regarder les enjeux de l'agriculture de façon large. Écoutez, je suis Denis Marion, je suis très heureux d'avoir accueilli Paul Caplette en ondes aujourd'hui. On se retrouve une autre semaine. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle d'agriculture et je reçois Paul Caplette, un agriculteur bien connu dans la région. Il est à Saint-Robert, dans le rang Bellevue. C'est le rang que je prends, moi, personnellement, pour me rendre à Massouville quand je viens de Sorel-Tracy. Alors, bonjour, Paul. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Écoute, t'es évidemment producteur agricole et tu es propriétaire d'une entreprise avec ton frère, avec ta mère. J'ai vu quelque part que ça fait déjà plus que 40 ans que tu es un producteur agricole à temps plein, comme tu le dis toi-même. Peut-être nous présenter un peu, c'est quoi votre exploitation agricole? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez?
Bien, la ferme chez nous, principalement, c'est une ferme de production végétale. Avec mon frère Pierre depuis qu'on est tout jeune, ma mère qui est encore là, qui a pris la relève de mon père quand il est décédé. À l'époque, on avait 13-14 ans, moi et mon frère. Fait que c'est une ferme familiale spécialisée dans différentes cultures au niveau de la production végétale. Vraiment une ferme qui est diversifiée aujourd'hui, là. 7 cultures en fonction avec la majorité de nos cultures qui s'enlignent vers les marchés d'alimentation humaine comme les haricots secs, les pois de conserverie pour Bon Duel, les Arctic Garden, etc. C'est ça. Le blé pour le pain. Présentement, là, on a des baguettes de pain qui poussent. C'est du blé d'hiver, c'est 30% de nos surfaces. Fait que
c'est pas une culture très présente dans la MRC, le blé pour le pain.
Ça évolue tranquillement. On fait partie de la deuxième vague de recommencer cette culture-là au départ, mais de plus en plus, il y a des gens, au fur et à mesure que l'on traverse les limites par rapport à la culture, qui est quand même une limite qu'il faut que ça passe l'hiver, il faut que ça survive à nos hivers de moins 25, moins 30, etc., la glace. Mais de plus en plus, il y a des agriculteurs qui font du blé d'automne, ce qu'on appelle aussi du blé d'hiver, qui, en fin de compte, c'est la porte ouverte vers des façons de faire avec les couverts végétaux puis les rotations là, vraiment plus complexes. Là.
Puis quand on parle de blé d'automne ou de blé d'hiver, c'est parce qu'on le sème à l'automne.
C'est ça.
Qu'il est en dormance à l'hiver puis qu'il repousse qui commence à pousser.
Ouais, c'est une culture, une plante qui est faite comme ça. Il faut qu'elle ait un gel avant de penser à faire un épi. Ce qui veut dire fait que ça va être semé en automne. L'hivernation va faire que cette plante-là va capter ces signaux-là. Puis dès que le printemps suivant va revenir, puis que la chaleur va se replacer, ça, elle était capable de résister puis de respirer tout l'hiver, s'il n'y a pas trop de motoneiges qui sont passés dessus, elle va redémarrer, puis elle va partir là, très tôt en saison pour être récoltée complètement là, dans les vacances de la construction, ce qui veut dire mi-juillet. T'sais, on sort des champs le 24 juin d'habitude, à Saint-Jean-Baptiste, fête du Canada, puis le 15 juillet, on est déjà sur la moissonneuse en train de repartir la roue en mode récolte.
Je suis curieux, là, je suis déjà trop curieux, là, je le sais, mais du blé comme ça, c'est différent, j'imagine, du blé qu'on trouve en Europe, étant donné qu'ils n'ont pas des grands gels comme les nôtres. Est-ce que c'est...
Et l'Europe font beaucoup de blé d'hiver.
Ah oui?
Aussi, oui. Des gels, tu peux pas avoir un gel de moins 20. Là, dès qu'il y a un hiver, une période d'hivernation de 0 moins 2, les Européens font... La majorité de leur blé, c'est des blés d'hiver. Les blés de printemps, c'est parce qu'il faut comprendre là, pourquoi. Le blé d'hiver, premièrement, il est plus économiquement en rendement, plus de potentiel. Mais le blé d'hiver, son gluten est différent du blé de printemps. Fait que quand on parle des baguettes de pain, tu sais, pour avoir tout le côté alvéole d'un pain,
oui.
Que tu vas mettre ton beurre, ton foie gras, toutes tes choses dessus, ben, tu vas remarquer qu'un pain traditionnel toasté, ça, c'est fait avec du blé de printemps. Ça fait une farine qui est dense avec un pain qui est compact, tandis qu'un blé d'automne, la farine de ça, va faire tout ce qui est baguette de pain, pain, les miches de pain, etc.
Paul, quand je t'ai entendu aussi dans une entrevue que tu donnais, parler de ce que ça signifie, votre production en nombre de personnes nourries, je trouvais ça assez passionnant de penser que une exploitation agricole dans notre MRC nourrissait autant de monde. On parle de quoi? On parle de combien de personnes?
Bien, chez nous, mettons, en 2006, on se fait un portrait avec un scientifique. Là, mais en 2006, on comblait les besoins alimentaires, entre guillemets, théoriques de 10 000 citoyens. Puis en 2018, on était monté à 15 000 citoyens. La même ferme, la même grandeur, moi et mon frère et ma mère encore. Juste par rapport à nos performances puis la façon qu'on avait de gérer nos champs.
Je répète, là, on parle de... Évidemment, on parle de nourrir théoriquement, là, dans oui. Le sens où c'est... on parle de tonnage, en fait, là, si on rentre
tonnage
dans le grand...
comparativement aussi à la protéine par rapport à tous les éléments, parce okay. Qu'ils font les calculs théoriques.
Et là, on parle de 15 000 personnes. Je le rappelais tout à l'heure, là, je parlais de Sorel-Tracy. C'est 35 000 personnes à Sorel-Tracy. Là. Donc, juste vous autres. Puis évidemment, comme de raison, il y a le Québec au complet à nourrir, puis bien d'autres mondes sur la planète. Là. Ouais. C'est bien évident qu'on a intérêt à ce que nos producteurs nourrissent beaucoup de monde, comme de raison. Alors, on a parlé de toi, on a parlé de la ferme chez vous. Qu'est-ce qu'il y en est de notre région? Comment tu vois l'agriculture sur le territoire de la MRC?
Mais je pourrais dire que notre MRC, elle se distingue beaucoup par le dynamisme des agriculteurs en place. Moi, je fais partie du bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre, mais quand même, on est à peu près, je sais pas, 350-400 agriculteurs, mais on a tout le temps une réputation d'innovation puis de façon de se démarquer. Je pense qu'en général, on a une agriculture extrêmement diversifiée, là, autant au niveau végétal qu'au niveau...
Quand on dit végétal, fruit. Évidemment, on inclut là-dedans les céréales là, de façon générale. Là, traditionnellement, là, quand on se promène dans la région, on voit beaucoup le maïs, le soya, mais c'est sûr qu'avec ce que tu nous dis, là, ce ne sont pas les seules productions.
Non, non.
Mais,
c'est les cultures principales, mais il y a plein d'autres cultures, comme un peu de tournesol. On les nomme les pois de conserverie, les haricots secs, Alibec est tout près d'ici. Là, c'est un des plus gros. En tout cas, c'est le plus gros transformateur au Québec. Au niveau du Canada, c'est quand même un important qui fait des transformations pour les gens d'ici, puis en même temps, il exporte.
Ce dont je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est le plus gros acheteur de fèves à Ribec au Québec.
Donc, au Québec, oui. C'est le plus gros. C'est le plus important. Puis ici, à Saint-Émain,
tout à fait.
C'est dans le cours. C'est certain qu'on produit des produits pour lui. Mais c'est ça, on a une région qui est diversifiée autant au niveau maraîchage, etc.
Là. Puis là, en plus, on a un peu de production bovine, production laitière, qui évidemment a diminué, ceci dit, par rapport à ce qu'il y avait il y a 35 ou 40 ans.
Mais je ne sais pas, au total, ça a diminué juste en nombre de producteurs ou si au niveau du troupeau, il y a énormément grossi.
Okay. Ben oui, ça c'est possible, ça.
Ça, je suis un petit peu moins au courant des statistiques, mais oui, on voit quand même les fermes laitières sont beaucoup plus grandes aujourd'hui. Mais au total, je sais qu'on avait fait le petit exercice dans mon petit rang. On disait dans le temps, il y avait un tel qui avait des vaches. on dit aujourd'hui, bien, il y a un tel puis un autre tel, mais au bout de la ligne, il y avait plus de vaches dans mon rang aujourd'hui.
Et plus de lait produit.
24 que ce qu'on avait à l'époque. Là.
On a aussi du porc, on a de la volaille, évidemment. On a des œufs, là, je pense à nos amis de Saint-Ours. La production maraîchère, puis on a même des productions maraîchères nouvelles, là, quand on pense comme au Serre-la-Vallière avec des fraises en hiver, là, déjà. Ouais. Ça, je trouve que ça marque l'imagination de voir qu'on est rendu là à produire. Par rapport à d'autres régions, soit en Montérégie, soit ailleurs au Québec, est-ce qu'on a une bonne production? Est-ce qu'on a un bon niveau de rentabilité?
On est capable de se comparer là, aux autres régions, même si on n'a pas tout à fait tous les mêmes atouts là, par rapport aux unités de chaleur. On va se comparer dans différentes régions.
Je pense qu'il faut l'expliquer, ça. Parce que ça, c'est important pour comprendre ce que vous êtes en mesure de produire. Les unités de chaleur, c'est évidemment la chaleur de la Terre. Là.
C'est ça, la température. Exemple, si ils ont des chiffres, des systèmes, ils appellent ça des systèmes unités thermiques, là, maïs, c'est nommé pour ça. Mais ici, mettons, c'est 2800, 2700. Bon, bien, si tu t'en vas vers la région de Saint-Hyacinthe, tu vas approcher le 2009. Puis quand tu t'en vas dans le sud-ouest, un peu plus bas, tu vas attraper le 3000 unités thermiques. Ce qui veut dire que les choix des semences vont être différents.
Parce que probablement que votre période entre le moment où vous semez et le moment où vous produisez est plus courte que lorsque la température est meilleure.
Mais aujourd'hui, la technologie a permis de développer des hybrides qui sont adaptés aux saisons plus courtes. Tu sais, les régions un peu plus à l'est, là. Le maïs soya, ça se produit à des endroits où ça se produisait pas avant. Fait que maintenant, il y a des hybrides qui ont été développés pour ces zones-là qui sont plus courtes en unité thermique pour être capable de produire.
Écoute, avant d'aller dans d'autres aspects là, où je voudrais qu'on aille ensemble, depuis quand même un bon moment, là, au moins depuis l'automne, on sent qu'il y a une certaine impatience chez les producteurs agricoles du Québec. J'aimerais ça qu'on voit, tu sais, on voit des manifestations, on voit des interventions assez claires là, de la part de plusieurs producteurs. Pourquoi il y a cette impatience-là? Puis pourquoi il y a cette frustration, entre guillemets, j'aime pas le mot, là, mais tu comprends ce que je veux dire?
Il y a plusieurs facteurs, mais c'est certain que des fois, c'est vu comme... Il y a beaucoup de... les agriculteurs du Québec, on a augmenté nos performances, comme on va parler tantôt au niveau agro-environnemental, etc., pour répondre un peu à avoir des fermes plus équilibrées, puis un peu répondre aux souhaits des consommateurs d'arriver avec de l'eau propre, puis exemple, une biodiversité élargie dans nos champs. Mais ce qu'on réalise souvent, un peu comme les agriculteurs français, c'est que quand ils arrivent pour vendre leurs produits, il y a des produits d'importation qui viennent avec d'autres cahiers de charges qui sont en dehors de ce qu'on souhaite ici.
Et on dirait en dessous, là, on pourrait dire.
Puis ils viennent se placer en dessous. Puis tu sais, je pourrais te donner un exemple très, très court, là. Nous autres, ça fait 40 ans qu'on fait des poids pour Bonduelle, pour aujourd'hui Norterra. Puis cette année, ils nous ont coupé nos contrats de 40 % en plus de nous baisser de 20 % sur nos prix. Pourquoi? Parce que, de même, le gouvernement fédéral a fait un échange avec des pays européens pour envoyer des produits là-bas pour en faire revenir d'ailleurs. Fait que nous autres, maintenant, on garantit des produits avec Norterra sans trace de pesticides, ce qui veut dire que c'est garanti qu'il n'y a aucune trace dans ton assiette de pesticides dans ton assiette, même si ce n'est pas biologique. Puis présentement, les consommateurs sont... T'sais, c'est certain, on ne peut pas se mettre en peau du consommateur qui n'a pas toujours les moyens, mais il se ramasse devant un panier d'épicerie où est-ce qu'il voit des poids d'une autre marque sans avoir cette spécification-là à moins cher. Fait que c'est ces produits-là qui se vendent puis qui nous compétitionnent. Puis que là, notre conserveur, bien, il nous dit, les gars, faut se serrer les fesses. Fait que comme agriculteur, à un moment donné, ça devient comme une pression réglementaire. Puis en même temps, on n'a pas toujours le retour d'ascenseur de nos clients. Puis si, juste parler du blé, juste pour le fun, tu sais, dans un pain de 4 piastres et quart, j'ai 22 cents de blé. Pendant la COVID, on a souvent entendu parler, les aliments montent, le panier des prix explose, c'est les agriculteurs, la bourse, etc. Mais le pain a monté plus. J'aurais doublé mon prix, le pain a monté plus que 20 sous du sac, de 1. Et de 2, les marchés se sont effondrés de 50 % depuis plus d'un an. Avez-vous vu le pain baisser? C'est ce qui fait que l'agriculteur, à un moment donné, il se dit, moi, j'ai encore mon 22 cents. Il s'est passé ça. Je me suis fait traiter de trop capitaliste pendant la COVID puis la hausse du panier d'épicerie. Puis quand les marchés à la ferme recoupent de moitié, la hausse que le consommateur a été obligé d'accepter continue.
Mais vous autres, vous n'en bénéficiez pas?
Aucunement.
Et c'est là, évidemment, que vous faites des calculs, puis là, vous vous dites, là, il y a quelque chose qui ne marche pas.
C'est toutes des choses comme ça qui font qu'ils s'additionnent un petit peu partout. puis qui fait que là, présentement, il y a comme un genre de ras-le-bol général, en plus des taux d'intérêt qui remontent, etc., puis tous les problèmes au niveau de la valeur des terres, etc., là.
Fait que c'est qu'il y a plusieurs aspects, là, finalement, ouais, dans la...
C'est très large,
en
comme...
Fait, c'est vraiment le... Comment je pourrais dire ça? C'est tout le secteur de l'agriculture qui se remet en question aussi, là, probablement, ouais, ouais, devant tout ça, là.
C'est très large comme éventail de toutes sortes de petites aiguilles qui te rentrent dans le corps, puis à un moment donné... Là,
avez-vous l'impression d'être entendu?
Ben, entendu, oui, compris pas tout le temps, puis c'est les réactions après, comment est-ce qu'on va réagir à ça. Et là, après ça, c'est plus nous autres, tu sais, exemple, si on parle de ce que le fédéral est allé donner en échange...
Avec les ententes de libre-échange, ouais, avec l'Europe.
Ça va prendre combien de temps, eux autres, avant de se retourner de bord, puis compenser, etc. Puis le consommateur, dans le fond, il n'y a pas non plus à payer pour ça. Fait qu'à quelque part, tu sais, c'est normal que le consommateur qui veut nourrir sa famille, il veut monter le panier d'épicerie. Nous autres, comme agriculteurs, ce qu'on veut, c'est nourrir le monde, mais... que nous autres, on puisse en vivre.
Aussi.
Puis en même temps, être compétitif au niveau des prix, pas étouffer nos consommateurs. Tu sais, on veut que le produit, il faut qu'on le vende. Là.
Et vous êtes des consommateurs vous-même. Vous savez très bien, vous savez très bien ce que ça veut dire.
Oui, on le sait, c'est ça quand on
travaille. On va parler, puis tu as ouvert la porte là, il y a quelques secondes. On va parler d'agro-environnement. On va parler de l'importance de la relation à l'environnement dans votre recherche de rentabilité, d'augmentation d'efficience, etc. On fait ça tout de suite après la pause. Je vous rappelle que je suis avec Paul Caplette, un agriculteur de Saint-Robert que probablement vous connaissez.